Jusqu'à 4h30, avec nos invités, nous allons vous raconter le début d'une longue histoire. La longue histoire d'une petite bactérie, mais qui fait le maximum, une petite bactérie diabolique qui plonge ses victimes dans un véritable enfer, la borréliose de Lyme. Aujourd'hui donc, jusqu'à 4h30, la maladie de Lyme, avec notre invité en plateau, c'est Judith Alberta, cofondatrice de l'association Lyme sans frontières, écrivain, enfin auteur entre autres, de son livre « Maladie de Lyme, mon parcours pour retrouver la santé ». Puis nous serons également, nous aurons au téléphone le professeur Christian Perron, président de la commission des maladies transmissibles au Haut Conseil de la Santé publique. Et toujours au téléphone, dans la deuxième partie de cette émission, maître Catherine Fèvre, conseil dans le cadre de la défense des malades de Lyme et des médecins qui pourraient être inquiétés par le conseil de l'ordre des médecins. Et nous sommes jusqu'à 4h30 en compagnie de Judith Alberta. Bonjour et merci d'être notre invitée. Nous allons donc parler de la maladie de Lyme ensemble. Et puis, tout de suite, d'ailleurs, j'ai envie de vous demander quels sont les buts de cette association dont vous êtes la cofondatrice, Lyme sans frontières?
L'association Lyme sans frontières a été créée il y a 2 ans avec pour but d'apporter une aide aux malades de Lyme, également de diffuser de l'information et puis possiblement également de se lancer ou d'aider à la recherche sur cette maladie.
Alors quand on dit maladie de Lyme, on pense piqûre de tique, c'est comme ça qu'on l'attrape. Et on ne sait pas forcément tout ce que ça comporte. Alors je parlais tout à l'heure d'une petite bactérie qui fait le maximum, une bactérie diabolique. J'ai envie de m'expliquer un petit peu pourquoi j'ai utilisé ce mot diabolique. D'abord parce qu'effectivement c'est infernal. Les patients qui malheureusement sont atteints de cette maladie, c'est un véritable parcours du combattant, un véritable parcours infernal pour se faire diagnostiquer, et puis par les souffrances qu'ils endurent. La maladie de Lyme, à quoi elle ressemble? Et nous avons d'ailleurs un spécialiste en ligne, puisque nous sommes en compagnie du professeur Perron. Bonjour, Christian Perron.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors ensemble, on va peut-être parler de la description de cette maladie de Lyme.
Alors en effet, la maladie de Lyme est une maladie qui est complexe, qui est une maladie qui est multifactorielle, c'est-à-dire qu'elle a de multiples facteurs pour origine. On dit aussi que c'est une maladie multisystémique, ça veut dire qu'elle touche de nombreux, voire tous les systèmes possiblement qui sont dans notre corps, ce qui pose un problème d'identification pour le médecin. Quand on dit que c'est une maladie qui est terrible, effectivement, compte tenu du fait que de nombreux systèmes dans notre corps peuvent être touchés, le médecin va envoyer le patient chez un spécialiste, puis chez un autre spécialiste, et puis à terme, on va pouvoir y passer des jours, des mois, des années, avant qu'on puisse identifier cette maladie.
Dans le meilleur des cas, il semblerait qu'on puisse passer sa vie entière sans que la maladie soit réellement diagnostiquée.
Tout à fait. Le diagnostic en fait est très difficile à poser et M. Perron vous en parlera naturellement bien plus aisément. Mais le diagnostic est difficile à poser, d'autant plus qu'on n'a pas de sérodiagnostic, c'est-à-dire de tests sanguins qui permettent aisément de déterminer, de valider qu'on puisse être touché par cette bactérie. Donc on a des personnes comme ça qui vont passer 5, 10, 15, 20 ans, voire davantage, de médecin en médecin, de douleurs, de souffrances terribles et de système atteint en système atteint jusqu'à une dégradation assez importante et non pas de solution.
Je reviens sur la bactérie diabolique, l'enfer que connaissent ces gens-là. On en parlait hors micro. Ces gens sont en feu, ont l'impression parfois d'être en feu, en flamme.
C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait l'image que l'on donne de la personne atteinte de Lyme, c'est une personne qui est en train de flamber. Elle marche ou peut-être même elle essaye de courir, de s'échapper à cela, et on la voit dans un brouillard de feu. En fait, c'est une image que l'on donne assez souvent, oui.
Christian Perron, vous êtes président de la commission des maladies transmissibles au Haut Conseil de la Santé publique. Cette maladie, pourquoi est-elle si difficile à diagnostiquer?
Alors, en fait, on sait maintenant qu'elle existait depuis la nuit des temps, parce qu'on a retrouvé la bactérie dans des tiques fossilisées d'il y a 15 000 ans, et on l'a retrouvée dans des momies anciennes d'il y a 5 000 ans. Et elle a été découverte récemment, il y a une trentaine d'années aux États-Unis. On a cru au départ que c'était une maladie régionale dans le comté de Lyme, qui est une petite région dans le nord-est des États-Unis, et que finalement c'était un phénomène un petit peu régional et rare. Et c'est tout le problème de la maladie, c'est que les experts qui ont calibré les tests, quand on vous fait un test de sérologie, il faut donner une valeur pour dire c'est positif, c'est négatif, pour rendre un résultat aux médecins et aux malades. Ils ont calibré le test de façon artificielle en disant il doit jamais y avoir plus de 5% de gens déclarés séropositifs dans une population donnée. Donc en fait, on lui a donné d'emblée un statut de maladie rare sur lequel les experts ne sont jamais revenus. Et donc, les tests actuels, quand on fait une sérologie, très souvent sont négatifs, alors que les malades sont bel et bien malades. Et comme ça ne se voit pas forcément qu'ils sont malades, parce que beaucoup de signes sont des douleurs, des choses qui ne se voient, qui sautent pas aux yeux, les malades sont déclarés psychosomatiques, feignants, et sont rejetés par le corps médical.
D'accord. Alors, en fait, aujourd'hui, si, sachant cela, comment se fait-il que ça perde, que cette situation perdure?
Je ne comprends pas très bien, parce que beaucoup de choses ont été publiées dans les articles scientifiques pour montrer que le test sérologique n'est pas parfait, puisque ça, il détecte entre 20 et 70% des malades selon les régions, selon la marque des tests, donc on sait bien que c'est pas du 100%. C'est publié dans les meilleurs journaux, et pourtant, les centres de référence de la maladie aux États-Unis, en Europe, disent que leurs tests sont parfaits, qu'il n'y a rien à changer. C'est là qu'il faut quand même faire bouger les choses, et on a besoin de recherche, parce que quand on fait de la bonne recherche, c'était fait dans différents pays, on arrive à isoler la bactérie. Alors soit la bactérie Princeps qui a été découverte aux États-Unis, mais maintenant beaucoup de cousines de ces bactéries qui ont des noms variés que je ne citerai pas là, pour ne pas embrouiller tout le monde, mais on sait qu'il y a d'autres Borrelia en Asie, en Europe, sur le continent américain, qu'il y a d'autres bactéries qui ne sont pas du groupe Borrelia, mais qui participent à ces maladies, il y a des parasites. Ça, on peut les isoler. Les vétérinaires sont très en avance, parce qu'ils ont beaucoup plus de moyens pour l'instant de recherche pour ça. Et chez l'homme, on n'a pas à notre disposition ces tests pour isoler tous ces microbes.
Christian Perron, je disais, vous êtes président de la commission des maladies transmissibles. La maladie de Lyme, provoquée donc par les piqûres de tique, est une maladie transmissible?
Alors c'est une maladie qui n'est pas transmissible d'homme à homme de façon courante, c'est transmis habituellement par les tiques, par la piqûre de tique. Alors le problème, c'est que quand un malade a des problèmes chroniques, parce que ça se manifeste au début par une rougeur autour de la piqûre, mais cette rougeur peut manquer. Déjà, faut savoir qu'il y a à peu près une personne sur trois qui se souvient avoir été piquée par une tique. Donc le médecin va pas faire le lien avec une histoire de tique. Puis souvent, on va se promener en forêt, même si on n'est pas, si on n'habite pas à la campagne, on va faire des activités sportives. Et ensuite, cet anneau rouge qui est caractéristique de la maladie au début autour de la piqûre, il n'est pas constant. On va le retrouver une fois sur deux. Alors, c'est un anneau rouge qui va en s'étendant, en augmentant de taille, et qui s'éclaircit au centre, et puis il va disparaître tout seul, même si on ne traite pas. Et c'est insidieux, parce que les gens vont se plaindre d'avoir mal au genou trois mois après, ou trois semaines après, puis avoir des maux de tête, puis avoir des troubles de mémoire, de concentration, puis avoir des crises de troubles du rythme cardiaque, d'avoir des trucs cutanés bizarres, des éruptions, des problèmes endocriniens, articulaires, musculaires. Ils vont aller voir tous les médecins spécialistes, et très souvent, les médecins ne vont pas du tout penser à cette maladie. Puis si par hasard, il y en a un qui y pense, très souvent, le test va être négatif. Donc on va dire, vous voyez, c'est pas ça.
D'accord. Mais il y a quand même une solution pour arriver à tomber sur le diagnostic, le bon diagnostic?
La solution, c'est que, bon, il y a quand même des patients qui ont la chance d'avoir un test positif, mais malgré ça, il y a des médecins qui refusent de soigner une maladie de Lyme en disant vous avez des anticorps, mais c'est parce que vous avez fait la maladie autrefois, elle est guérie. C'est ce que répondent très souvent les médecins à leurs patients. Et puis tous ceux qui ont la sérologie négative, ils n'ont pas d'issue. C'est pour ça qu'il y a ces associations de malades, à mon avis.
Dont Judith Alberta, qui est notre invitée jusqu'à 4h30. Christian Perron, je vous remercie beaucoup. Au revoir et bonne fin d'après-midi. Et jusqu'à 4h30, nous sommes en compagnie de Judith Alberta, cofondatrice de l'association Lyme sans frontières. Aujourd'hui, nous parlons de la maladie de Lyme due à cette bactérie, la borréliose de Lyme. Alors, vous êtes cofondatrice de cette association. Vous êtes également auteur du livre Maladie de Lyme, mon parcours pour retrouver la santé. Vous êtes vous-même malade de cette maladie?
Oui, je suis malade de Lyme, en effet, une malade chronique apparemment. Ce livre a été écrit dans le but de faire passer un message, puisque avant que je commence à l'écrire, mon parcours a été assez long en fait pour pouvoir identifier cette maladie. Et je suis, comme beaucoup de malades de Lyme, la grande majorité, passée de médecin en médecin avant qu'on puisse trouver quelque chose. Et je décris cela donc dans mon livre.
Oui, voire même qu'on vous envoie vers les consultations psychiatriques.
Ah oui, mais forcément. Ouais. Oui, c'est-à-dire qu'à partir moment où, comme pour tous ces malades, on ne trouve jamais rien, comme le disait le professeur Perron tout à l'heure, les médecins sont hébétés devant des résultats qui sont toujours négatifs et voilà, donc ils imaginent qu'on somatise.
Avec des troubles, mais parfois des troubles qui effectivement qui peuvent vous donner l'apparence de quelqu'un d'un peu particulier, des troubles de la vue, vous dites qu'à un moment donné vous y voyez comme si il tombait une neige de rue par exemple.
Oui, il y a des troubles visuels, il y a également des hallucinations visuelles ou auditives, hein. Donc effectivement quand on va raconter des choses comme ça au médecin, le médecin vous envoie directement chez le psychiatre.
Oui, Judith Albertin, vous avez quand même, si j'ose dire, les pieds sur terre, quoique vous êtes pilote de ligne, instructeur.
Voilà.
Enfin bref, vous avez quand même la tête sur les épaules en tout cas.
Voilà, c'est ça. J'ai la tête sur les épaules, effectivement plus proche du ciel que souvent. Enfin, ou du moins c'était dans mon métier le cas, plus proche du ciel que de la terre, puisque j'étais donc pilote de ligne, commandant de bord, et j'ai fini donc comme instructeur à Air France. Mais oui, la maladie m'a rattrapé et m'a fait tomber de mon siège et j'étais obligée de m'arrêter de travailler. C'est vrai que c'est difficile de travailler avec une maladie de Lyme.
Alors, est-ce que c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans les invités que vous avez voulu nous faire rencontrer aujourd'hui dans cette émission, il y a Maître Catherine Fèvre, conseil dans le cadre de la défense des malades de Lyme et des médecins qui pourraient être inquiétés par le conseil de l'ordre des médecins?
Oui, Maître Fèvre est donc effectivement notre conseil, elle est membre de l'association et en fait c'est une jeune femme extrêmement pertinente et pétillante qui va très vite dans la compréhension de la problématique et qui a très vite appris ce qu'était la maladie de Lyme et elle nous aide dans le cadre de la défense de malades qui se retrouvent en perte d'emploi, qui sont licenciés, qui sont incapables de travailler mais que les autorités de santé, les CPAM considèrent comme néanmoins aptes à travailler alors que ces personnes sont vraiment dans une brûlure chronique et voilà, donc il faut qu'elle défende ces personnes-là et puis les médecins qui possiblement sont harcelés par les autorités de santé parce qu'ils soignent hors protocole de consensus et donc c'est pas bien ce qu'ils font.
Obligés d'en passer par là.
Oui. Obligés, oui, effectivement la meilleure approche pour pouvoir soigner les gens c'est une approche intégrative qui est donc totalement hors protocole et voilà, on a aujourd'hui une divergence entre ce que disent les autorités et ce qui marche.
Nous avons justement Catherine Fèvre en ligne. Bonjour Catherine Fèvre.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté cette invitation. Quels sont donc les parcours par lesquels passent ces malades à qui vous venez en aide?
Alors en général, ces malades, alors pour préciser ce qui est important, quel que soit leur âge, jeune ou moins jeune, passent par des multiplications d'arrêts maladie qui finissent évidemment par perturber leur vie professionnelle et conduire la plupart du temps à un licenciement. Et ces malades finissent également avec un avis de la caisse d'assurance maladie qui estime, selon l'avis du médecin conseil, qu'ils sont parfaitement en état de travailler et dès lors qu'ils ne seront plus indemnisés au titre de leurs arrêts maladie. Donc vous vous trouvez dans une véritable impasse, sans travail et sans énergie pour travailler. Donc mon rôle, c'est effectivement de les accompagner, malheureusement pas pour retrouver du travail, mais indirectement pour être soutenus et donc pour solliciter la prise en charge de leur arrêt maladie et la reconnaissance de leur affection au titre de la maladie de Lyme, qui n'est pas forcément aisé.
Quant aux médecins, pour eux, comment ça se passe?
Alors les médecins courageux, parce que je crois qu'aujourd'hui on peut parler de médecins courageux, qui sont confrontés directement à des milliers de malades sur le terrain, milliers de malades abandonnés, on vous l'a dit tout à l'heure, puisque considérés comme parfaitement vaillants. Ces médecins-là sont poursuivis à l'initiative des caisses d'assurance maladie devant leurs instances disciplinaires pour se voir suspendus de leurs fonctions, pour voir rembourser des traitements antibiotiques aux caisses d'assurance maladie et donc pour être finalement empêchés d'exercer. Clairement, on est dans une volonté de priver les patients d'accès aux soins.
Catherine Fèvre, je vous remercie aussi pour ce témoignage. Judith Albertin, pour en savoir plus, bien évidemment, on peut s'adresser à l'association Lyme sans frontières, un site peut-être.
Oui, nous avons un site internet, effectivement, donc www.associationlymesansfrontieres.com.
Et puis une conférence aussi dans pas longtemps,
oui,
à laquelle tout le monde peut assister.
Dimanche cette semaine, donc dimanche 22 à Oloron-Sainte-Marie, à côté de Pau. Nous avons une réunion d'information l'après-midi à partir de 14h30, ouverte à tout le monde et c'est gratuit.
Judith Albertin, merci beaucoup.
Merci. France Bleu.